Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, bonjour. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le pastel en Occitanie et en même temps le pastel de par le monde. Car Chantal Armagnac, qui a écrit ce joli livre « Le pastel en pays de Cocagne », nous fait traverser l'histoire du pastel dans notre région et ailleurs. Le pastel, c'est quoi ? C'est encore un sujet qui est très inconnu pour les gens de l'Occitanie, alors que la ville de Toulouse est une ville extraordinaire grâce à la richesse produite par le pastel. Nous allons découvrir l'histoire du pastel à travers un livre magnifique, autant livre d'art que livre d'histoire, imprimé aux éditions Bleu Pastel, une collection qui fait des livres d'art régionaux qui est absolument à découvrir. Chantal Armagnac a écrit ce joli livre « Le pastel en pays de Cocagne ». C'est une Gasconne qui a décidé de nous faire partager son amour du pastel, mais aussi son amour de l'histoire. Nous allons faire un petit portrait de cette auteure qui a plusieurs casquettes, car si elle a écrit ce livre sur le pastel, elle a aussi écrit un livre sur l'Armagnac, comme indique son nom, car elle est d'une lignée de producteurs d'Armagnac. Son premier livre a été « L'histoire des nuls pour l'Armagnac », mais le livre qui va nous intéresser aujourd'hui est sur le pastel. Bonjour Madame Armagnac, merci beaucoup de venir nous présenter votre livre. C'est une grande joie pour nous de découvrir quelqu'un qui est amoureux de la région et de notre histoire et du pastel et qui va permettre aux gens qui nous entendent de découvrir cette histoire passionnante qui a façonné notre région pour son architecture, aussi bien à Toulouse qu'à Albi et dans bien d'autres villes encore.
Bonjour. Bonjour Bellita de Bangy et merci de me recevoir ici à Toulouse pour parler du pastel.
Écoutez, c'est vraiment une chance de vous recevoir parce que en lisant votre livre, je me suis absolument régalée et j'espère que ce sera le cas de nos auditeurs qui, après avoir entendu l'émission, auront envie d'acheter ce livre qui est vraiment un plaisir des yeux et un plaisir pour notre histoire, pour la découverte de notre histoire, de notre région. Alors, je vais vous poser une première question, Chantal Armagnac. Au nom prédestiné quand même pour cet amour de l'Armagnac, mais aujourd'hui ça ne sera pas le sujet retenu. Depuis quand vous êtes-vous passionnée pour le pastel ? Parce que votre livre, visiblement, est le livre d'une femme passionnée pour avoir écrit un tel livre.
Alors, je me suis passionnée pour les couleurs depuis les années 2010 et j'avais envie d'écrire un livre sur la Gascogne et puis pour transmettre à mes petites filles toulousaines qu'est-ce que c'était la Gascogne. Et donc j'avais trouvé par le biais des couleurs. Donc j'ai travaillé d'abord le rouge, tout ce qui était lié au rouge en Gascogne, puis le jaune et puis le bleu. Et quand je suis arrivée au bleu, bien sûr, dans le Gers, il y avait le bleu de Lectoure. J'ai rencontré Denise et Henri Lambert. Ce fut assez fabuleux. Et c'est vrai que c'était intérieurement ma couleur préférée. Et quand l'éditeur a vu, nous avons travaillé ensemble sur ces trois, les couleurs de ma Gascogne, rouge, jaune, bleu, et suite à ça, il m'a dit, mais dis donc, mais maintenant, nous allons travailler, nous allons consacrer carrément tout un livre au pastel, au bleu. Et là, évidemment, j'étais partante puisque je venais de quitter ma Gascogne pour m'installer dans le Tarn et c'était un très beau projet qu'on me proposait.
Ce thème du pastel, est-ce que il vous a été difficile de vous renseigner parce que il semblerait que les gens ne soient pas très informés et que ce soit un peu réservé à une petite population la connaissance du pastel. Est-ce que les portes se sont ouvertes facilement? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver tout ce que vous savez, tout ce que vous nous avez mis dans ce livre?
J'ai réussi en allant aux archives départementales du Tarn à Albi. C'est vrai qu'ils m'ont ouvert leurs portes. C'est vrai que je suis aussi allée travailler à la bibliothèque de l'université Jean Jaurès à Toulouse. que ma fille, grâce à ma fille Adeline Grand-Clément, qui est professeure là aussi, qui m'avait ouvert des portes, qui elle-même avait travaillé sur les couleurs, mais dans la Grèce ancienne. Et c'est vrai que quand je disais aux gens, ben tiens, je suis en train de travailler, ou les gens m'interrogeaient, ben sur quoi tu travailles en ce moment? Ben je disais, ben je travaille sur le pastel, et les gens me disaient, ah bon, tu travailles sur les pastels de Toulouse-Lautrec? Je dis, mais non, je travaille pas sur les tableaux au pastel, je travaille sur la plante, le pastel. Et les gens étaient stupéfaits en me disant, ah bon, il y a une plante qui s'appelle pastel. Donc vraiment, même dans le Tarn, ben les gens qui étaient autour de moi méconnaissaient le pastel. C'est vrai que depuis, Albi a organisé une fois chaque année, maintenant il y a la nuit pastel, on commence un petit peu à s'intéresser, mais c'est très récent, c'est très récent.
Est-ce que vous pensez que votre livre va permettre de mieux connaître le pastel au niveau des écoles? Parce que c'est un livre qui a de très très belles images et qui quand même dégrossit sur l'histoire du pastel, et il me paraît indispensable que les gens de notre région connaissent l'histoire qui a fait leur région.
Alors, il existe des projets sur le pastel parce que les étudiants à la faculté d'Albi, il y a des professeurs qui sont penchés avec leurs étudiants, qui ont fait d'ailleurs de très belles restitutions l'année dernière, des conférences qui ont été faites à l'hôtel Reynès. Au niveau, oui, les étudiants. Dans les lycées, ça commence un petit peu. Si, c'est vrai. Il y a eu aussi dans le Tarn, dans certains artisans pasteliers qui ont commencé à rencontrer les écoles primaires. C'est vrai, il y a des demandes qui se font maintenant. Ça, et c'est très important, les démonstrations. Et c'est vrai, quand je repense toujours chaque fois à Denise Lambert, qui donc a créé à Lectour, qui est maintenant est installée à Roumains, me raconte les stages qu'ils font ou les démonstrations qu'ils font avec les enfants. Les enfants sont vraiment émerveillé par la magie du pastel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Oui, depuis une dizaine d'années, oui, maintenant, ça commence.
Le recteur de l'académie n'est pas venu vous voir en vous disant « Maintenant que j'ai lu votre livre, il faudrait peut-être en faire un plus petit pour diffuser dans les écoles parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. » Et votre livre est vraiment un bonheur, donc ce pastel en pays de Cocagne, pour une initiation pour enfants et adultes. Et je suis contente qu'il y ait eu des pasteliers qui soient allés dans les écoles, dans les universités, mais je trouve que ça devrait commencer petit, on apprend beaucoup de choses à l'école qui ne sont pas toujours très utiles, mais l'histoire du pastel me semble vraiment indispensable. Surtout que c'est une très très belle histoire et une histoire vivante. C'est une histoire qui est pleine de péripéties. Alors, je vais un petit peu repartir sur les bases de ce pastel, qui est appelé aussi la guède. Et j'ai lu, puisque j'ai fait des recherches après avoir lu votre livre qui m'a passionnée, j'ai vu que la guède avait été produite aussi dans d'autres régions de France, comme la Picardie, qui avait énormément travaillé avec les Anglais au XIIe et XIIIe siècle. Mais je voudrais savoir quand le pastel ou guède est arrivé en Occitanie. Et est-ce qu'on sait, parce que je ne l'ai pas vu dans votre livre, qui a pu apporter le pastel dans notre région ?
C'est-à-dire que le pastel était cultivé déjà depuis des temps immémoriaux, un petit peu partout. C'est vrai que le pastel, dans toute la France, il y en avait bien sûr dans le sud-ouest, parce que c'était pour teindre le bleu, pour teindre les vêtements des ouvriers, c'était avec le bleu. Le bleu était très peu considéré, mais il y en avait un petit peu partout. Quand le bleu est devenu, grâce au culte de Marie, quand Saint-Louis s'est habillé de bleu, quand on a habillé la Vierge de bleu, la demande s'est accrue. Alors là, vraiment, la Picardie a beaucoup, beaucoup produit parce que, le bleu était devenu la meilleure des couleurs, la plus belle. Et le sud-ouest, l'Occitanie aussi s'est mis à cultiver. Mais... Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la qualité du pastel occitan était supérieur à la guède du Picardie uniquement à cause du soleil, parce qu'il y avait beaucoup plus de cette notion d'ensoleillement qui était plus grand. Donc c'est à ce moment-là que le pastel occitan a détrôné le pastel de Picardie, mais la Picardie a continué aussi un petit peu, mais c'est vrai que celui qui était le plus demandé, c'était celui de...
Donc on a détrôné les Anglais. On a détrôné la Picardie pour fournir les Anglais, puisqu'après nous avons, enfin l'Occitanie beaucoup produit pour livrer en Angleterre et en Italie et en Allemagne et dans de nombreux pays, puisque le bleu était, comme vous dites, était devenu très demandé.
Oui, c'est déjà à la fin du XIIIe siècle, XIIIe et bien alors évidemment au XIVe, XVe, que ça s'est vraiment développé et c'est les péages, hein, l'étude des péages qui nous montre combien la circulation du pastel était importante dans le sud.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette plante pastel, appelée aussi Isatis tinctoria, qui ressemble beaucoup au colza et qui fait partie de la famille du colza. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la reconnaître, cette plante qui a l'air de pousser quand même très facilement? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que pour qu'elle ait pu s'étendre autant dans la région, c'est qu'elle ne devait pas être tellement demandeuse d'eau ou de soins particuliers. Parlez-nous un peu du pastel, de l'Isatis tinctoria.
En fait, c'est une plante bisannuelle. La première année, ça fait comme une sorte de salade, hein, des feuilles. Et puis ce n'est que la seconde année, c'est pour ça qu'on dit bisannuelle, la seconde année, il y a une tige qui va se développer vers le haut avec des feuilles beaucoup plus effilées et il va y avoir la floraison en jaune. Mais ce sont les feuilles de la première année qui contiennent le maximum de pigments. Ces feuilles-là qu'on récolte.
Alors c'est vrai. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'on fait alors?
L'année suivante, il y en a qui récoltent les feuilles la première année et qui après, ils relabourent dessus, ils ne vont pas attendre la seconde année. Mais c'est vrai qu'on a besoin de graines, donc certaines parcelles, on attend la seconde année que ça fleurit, que les graines apparaissent. Et puis les graines sont utilisées pour ressemer, mais aussi les graines sont utilisées pour les cosmétiques, les huiles et autres qui sont très demandées aussi maintenant. Donc on a aussi besoin de feuilles et de graines.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit au début à nos auditeurs, c'est que le pastel avait en réalité plusieurs fonctions. Si c'est une plante tinctoriale, ça n'est pas qu'une plante qui sert qu'à la teinture, c'est une plante donc qui sert aussi à la médecine, qui sert aussi au fourrage des animaux, qui sert encore à quoi? Je crois que c'est une plante qui servait aussi pour le miel, qui était mellifère, une plante mellifère.
Ah oui, il y a aussi le miel de pastel qui est très prisé. Mais c'est vrai que c'était une plante, il y avait, c'était une, à un moment donné, qui était classée par les ingénieurs agronomes du début du 20e comme plante fourragère pour les animaux, pour varier l'alimentation des animaux. Mais c'était surtout quand même une plante tinctoriale et puis pour la médecine, vraiment pour la médecine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont encore faites maintenant et que il y a des produits, des propriétés médicinales très, très intéressantes et qui font que la plante est de plus en plus recherchée.
Alors, dans votre livre, où j'ai vraiment je suis allée de découverte en découverte avec un grand plaisir, je vois qu'il y a différents sens au mot pastel et qu'il y a une évolution de ce mot. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'origine du mot pastel? Parce qu'en réalité, j'ai vu que le pastel était cultivé depuis très très longtemps, puisqu'il me semble que sous Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, il parlait déjà du pastel. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ce mot, qui est un mot inconnu du grand public, pour lequel il y a des confusions?
Oui, et c'est vrai qu'il est cultivé depuis le néolithique, dans les Bouches-du-Rhône, on a trouvé, donc le pastel, pour dire, le pastel a toujours été présent en France, notamment dans le sud. C'est le mode de fabrication qui a donné son nom à la plante dans le sud, puisque dans le nord elle s'appelle la guède, la vouède, mais chez nous dans le sud on l'appelle pastel à cause de pastel qui vient de paste, pasta, la pâte, parce que autrefois on récoltait les feuilles et on les broyait et on en faisait ces boules, des boules de cocagne, on en faisait une pâte et avec cette pâte on formait les boules de cocagne, d'où le pays de cocagne. Et c'est cette pâte, ce mode de fabrication a donné le nom à pasta pastel, voilà. Mais c'est vrai qu'après, un petit peu plus tard, pastel a désigné aussi les craies que l'on fait de couleurs, mais alors là c'est toutes les différentes couleurs, pour les tableaux. Que les artistes prennent uniquement pour les tableaux. Et ensuite, pastel est devenu un ton pastel, un ton plus clair. Donc le mot a évolué au fur et à mesure des époques.
Alors j'ai vu que le pastel avait été utilisé par de très grands peintres comme Léonard de Vinci, qui faisait des compléments à sa peinture, il mettait quelques touches de pastel. Et puis j'ai lu aussi, en faisant mes recherches complémentaires, j'étais tellement passionnée sur le sujet, que certains peintres avaient utilisé le pastel parce que c'était beaucoup moins cher que la peinture. Et que donc, j'ai lu ça dans mes recherches, et que ça permettait de faire aussi de très beaux tableaux, mais qui étaient quand même beaucoup plus fragiles, puisque le pastel est plus volatile, est plus fragile si on ne le met pas sous verre. Alors, après, j'ai vu dans votre livre, Madame Armagnac, vous l'avez déjà un petit peu dit, l'arrivée du bleu en France. Elle arrive quand? Parce qu'avant, les belles couleurs, alors il y avait le bleu qui était fait pour teindre les costumes des paysans, mais qui n'était pas une très belle couleur, parce que la couleur à l'honneur, c'était le rouge pour les papes, le rouge pour les nobles, pour l'aristocratie, pour le roi. Quel est le premier roi qui a mis du bleu dans sa tenue, ou qui a mis le bleu à l'honneur? Alors dans votre livre, vous parlez de Philippe Auguste en 1165, qui change les armoiries, qui met dans les armoiries de la monarchie française, qui deviennent azur semées de fleurs de lys d'or. Donc, dans l'art héraldique, le bleu rentre en 1165 avec Philippe Auguste. Et alors après, je reprends ce que vous avez dit, on a fait le manteau de la Vierge Marie en bleu.
Oui, c'est ça qui a été... Le culte de Marie a vraiment fait que la mode du bleu est devenue... tout le monde demandait du bleu, du bleu, du bleu.
Et vous qui êtes gasconne, et un peu plus tard, il me semble qu'il y a eu des personnages très importants qui étaient habillés avec des capes bleues dans votre pays. Je pense...
Oui, les fameux mousquetaires, bien sûr.
Les fameux mousquetaires avaient leur cape bleue qui était teinte au pastel.
Oui, absolument. Quand on a fait des reconstitutions historiques, notamment à Lupiac, autour de D'Artagnan, quand on a voulu faire des scènes historiques, on s'est renseigné et le musée des armées à Paris nous a bien confirmé, oui, les tuniques des mousquetaires étaient bien teintes au pastel. Et c'est Denise et Henri Lambert, qui étaient à l'époque à Lectoure, qui ont teint les tuniques des mousquetaires, qui ont fait des démonstrations à Lupiac, patrie de D'Artagnan.
Patrie de D'Artagnan. Alors, la découverte du pastel comme plante dictatoriale est joliment légendée dans votre histoire de femme lune. Parce qu'en réalité, il semble qu'on ne connaisse pas la première personne, ou on ne sait pas qui a été la première personne, ou quel est le pays qui a découvert le fait que cette plante jaune fasse une teinture bleue. Dans votre livre, vous inventez une très belle histoire, qui est l'histoire de la femme lune, pour donner une idée de l'aperçu, de la découverte du pastel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire en quelques mots, parce qu'elle est tellement jolie, cette légende que vous avez écrite?
En fait, c'est vrai qu'il est connu depuis le néolithique, et on se disait, on a essayé d'imaginer comment ça peut être. C'est une manière, c'est souvent accidentellement que l'on découvre, puisque pour le rouge garant, c'était facile, la racine était rouge, on savait bien qu'on allait tirer du rouge de la racine, mais tandis que pour cette plante qui a des feuilles vertes et qui fleurit jaune, pour savoir que ça allait donner du pigment bleu, c'était assez étonnant. Donc j'ai imaginé qu'une femme comme ça partait pour essayer de repérer des fourrages ou autres pour ses animaux. Et puis elle repère sur une placette cette plante et elle ne la connaît pas. Elle en ramasse plusieurs, une poignée de feuilles. Et puis elle est surprise par un orage. Il faut qu'elle rentre très vite avec son enfant. Et puis elle va abandonner comme ça ses feuilles dans une coupelle qui est près d'un mur ou d'un bâtiment, et ce n'est que le lendemain qu'elle se dit, mais cette plante, il faut que je remonte là-haut voir. Elle remonte avec son enfant, et puis j'ai imaginé que donc l'enfant qu'elle avait sauvé, qui avait peur de l'orage et autres, et elle va, c'est l'enfant qui fait une sorte de danse pour la remercier, et qui va plonger les manches de sa tunique dans dans cette sorte de soucoupe dans laquelle, comme il y a de l'eau qui a recouvert les feuilles, puisqu'il faut qu'il y ait un temps de macération suffisant pour qu'il y ait les pigments qui soient dilués et qui est... Donc,
Il
trempe ses manches et puis il va les relever en dansant. Et c'est quand il y a l'oxydation de l'air et là, ses manches vont devenir bleues. Et la femme va comprendre le pouvoir puissant de ses feuilles de donner une couleur bleue. Donc, c'est...
Alors, je dois dire, pour avoir lu cette légende que vous avez écrite dans votre livre et pour connaître un petit peu le procédé chimique de la fabrication du bleu avec le pastel, que tout cela est très crédible et que c'est très facile à comprendre pour les enfants. Parce que le mot oxydation est un mot un peu savant, mais quand on voit l'enfant qui danse dans votre récit et qui a l'air libre, en fait... Finalement, c'est le contact de l'air sur ses manches mouillées qui crée cette oxydation, voilà, qui crée cette magie. Et la teinture bleue arrive sur les manches de l'enfant. Et en fait, l'histoire de la teinture du pastel, c'est ça. C'est qu'on trempe un tissu dans un liquide qui est saumâtre. Il sort d'une couleur épouvantable et après... assez rapidement, en quelques minutes, arrêtez-moi si je me trompe.
Non, quelques minutes.
En quelques minutes, il devient un bleu extraordinaire qui en plus ne bouge pas, ne varie pas et dure. Et en plus, c'est une couleur qui aura des tas de pouvoirs, nous le verrons à travers le livre, au niveau santé.
J'ai adoré quand Annette Ardoin, qui est aussi teinturière à Toulouse, à un moment donné faisait des ours qu'elle habillait de bleu, parce que donc de bleu pastel, bien sûr, teint elle-même avec du bon pigment, parce que cette couleur a des pouvoirs aussi pour soigner, et que quand un enfant a dans son berceau un ours teint au pastel, et bien ça peut lui apporter rien que des bonnes choses.
Oui, ça, il faut le répéter, en fait, la couleur bleue obtenue par le pastel a des vertus, c'est une plante médicinale aussi, et je fais un petit aparté en disant que je crois que le bleu est la couleur du chakra de la gorge, et en même temps, ça permet de maintenir la voix de façon extraordinaire, puisque Denise Lambert, que j'ai eu la chance de rencontrer après avoir lu votre livre, expliquait que de grands chanteurs d'opéra venaient lui demander de teindre leurs écharpes pour garder une belle voix tout l'hiver,
voilà,
pour protéger leur voix.
Oui.
Donc, le bleu n'a que des vertus, le bleu obtenu avec la fleur de pastel.
Oui, absolument, hein, le pigment de pastel.
Voilà, hein, nous ne parlons pas de la teinture chimique inventée par Bayer au 19e siècle.
Oui.
Le bleu, je découvre encore dans votre livre, va être utilisé par les artistes pour la Vierge, pour la Sainte Vierge. Et alors, bien sûr, ils n'utilisent pas uniquement le pastel, ils utilisent aussi, là je fais un petit aparté parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui sont faites avec du bleu, avec du lapis lazuli, puisque la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, qui est un monument reconnu par l'UNESCO, a des plafonds bleus, ce qui est très rare à l'époque, et qui ont été faits avec du lapis lazuli, de l'azurite et aussi du pastel.
Alors, ils n'ont pas été faits avec de pastel, azurite, lapis lazuli, mais en fait, le chapitre d'Albi, enfin, Albi a pu s'offrir ces artistes qui sont venus d'Italie, grâce à l'argent du pastel. Mais ce n'est pas avec le pastel que ces peintures ont été réalisées. C'est souvent, on doit le préciser quand on fait visiter la cathédrale d'Albi, que le bleu qui y est, c'est plutôt azurite, lapis lazuli. Mais c'est bien pour payer ces artistes exceptionnels, c'est l'argent que la ville avait engrangé, oui.
Très bien.
À cause du pastel.
Nous allons faire une petite pause, nous allons écouter une musique du 15e siècle. Vous allez reconnaître la viole de gambe. Thank you.
Parole d'auteur. Bélita de Bangy.
Chers amis, cette émission a pour but de vous faire ouvrir les yeux quand vous vous promenez dans Toulouse ou Albi et d'admirer ces trésors laissés par les pasteliers. Qui est plus beau, Albi ou Toulouse, nous ne savons pas. En tant que Toulousaine, je vais vous parler du pastelier Jean de Bernuy, qui a été l'homme le plus riche de France à l'époque, au XVe siècle, puisque ce dernier s'est porté garant pour la rançon demandée par Charles Quint quand François Ier a été emprisonné. François Ier devait donner une rançon de 200 000 ducats d'or. Et on a trouvé en France que Jean de Bernuy, bien connu des Toulousains, puisque c'est lui qui a fait construire l'hôtel où est maintenant abrité le lycée Fermat, c'est Jean de Bernuy qui s'est porté caution pour la rançon de François Ier. Qui était ce Jean de Bernuy, homme un peu exceptionnel, par sa fortune, par son bon sens, par son sens du commerce? C'est un homme qui vient d'Espagne, Jean de Bernuy. C'est un Espagnol, il vient de Burgos. Quand il arrive, il s'appelle Monsieur Bernuy. C'est un homme d'affaires avisé qui va investir évidemment sur le pastel, mais qui très vite, il produira une fortune absolument prodigieuse. Il va investir aussi dans le foncier. Il achètera la seigneurie de Villeneuve-la-Comtale, la baronnie de Brame, une partie de Saint-Sulpice-la-Pointe, les seigneuries de Léran et de Lasborde, le château de Sessac. Bernuy, c'est un nom à retenir. C'est lui qui avait la tour la plus haute, la plus somptueuse. Son maçon s'appelait Monsieur Privat. Et ses 2 millions d'écus d'or, c'est lui qui a pu garantir quand même à François Ier de ne pas rester en prison. Alors, concernant cette rançon exceptionnelle, cela va déboucher sur l'histoire de la belle Paule, parce que François Ier, et ça n'est pas une légende, c'est une histoire vraie, François Ier a tenu à venir remercier Jean de Bernuy, qui avait enfin été anobli. Il a tenu à venir à Toulouse pour le remercier. Et en venant à Toulouse, une jeune fille qui s'appelait Paule de Viguier, qui avait 14 ou 16 ans, on ne sait pas exactement, a remis un bouquet à François Ier, et cette jeune fille était tellement belle qu'elle est devenue la belle Paule. Chantal Armagnac, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire de la belle Paule, qui en réalité est une histoire vraie et non pas une légende comme le croient beaucoup de Toulousains, puisqu'elle a existé et qu'elle a bien rencontré François Ier. Qui était la belle Paule, qui était la plus belle femme de Toulouse?
La belle Paule était une petite fille, fille de pastelier, et c'est vrai qu'elle a été remarquée par François Ier, c'est lui qui l'a nommée le premier la belle Paule. Paule de Viguier, héritière d'une famille de négociants pasteliers toulousains. Et on dit, mais c'est vrai, que quand les Toulousains n'avaient pas le moral, on demandait à la belle Paule de se montrer à son balcon et que du coup les Toulousains retrouvaient le moral. Et d'où ce fameux tableau qui est exposé dans la salle des Illustres au Capitole, la belle Paule, et qui s'habillait de bleu et qui était extrêmement belle. Et je signale qu'il existe aussi une pièce de théâtre qui raconte cette histoire, le ruban bleu pastel, qui est à partir de Paule de Viguier. Voilà.
Voilà, donc en fait, ça n'est pas une légende.
Non.
La belle Paule, elle a existé, elle a été mariée, elle a vécu à Toulouse, et c'est une réalité. Donc, chers Toulousains et chers amis albigeois qui nous écoutaient, c'est une vérité, cette ravissante jeune fille, elle a bien existé. Dans les personnes qui ont marqué l'histoire du pastel à Toulouse, je viens de vous parler de Jean de Bernuy un petit peu rapidement, mais bon, c'est un nom à retenir. Donc, je voudrais aussi vous parler d'Acesa, qui est à l'origine de l'hôtel d'Acesa à Toulouse, qui est quand même un hôtel extraordinaire. C'est un Aveyronnais qui est venu faire fortune à Toulouse, de même que Bernuy était un Espagnol qui venait de Burgos, qui est venu faire fortune à Toulouse. Acesa est venu de son Aveyron simplement, et ces hommes ont fait une fortune pyramidale. Je voudrais donner une petite anecdote concernant Acesa. En fait, on dit que sa fortune était tellement considérable qu'il payait à lui tout seul un cinquième des impôts de Toulouse. Voilà ce que Toulouse a pu produire au XVe siècle. Alors, après, je vais repartir un petit peu, je vais reprendre le livre, et je vois que dans le livre, il y a des très belles peintures, des très belles images, et il y a un très, très beau tableau qui représente le port de Marseille, de Joseph Vernet, qui représente une toile avec des hommes qui transportent des énormes ballots. Dans ces ballots, il y a du pastel. Et donc, puisque le pastel partait dans toute l'Europe. Et sur ces ballots, nous voyons des dessins qui représentent non pas les armes, mais le signe des pasteliers. Parce que les hommes qui faisaient les manipulations de ces sacs, c'était souvent des hommes qui ne savaient pas lire ni écrire. Et donc, pour ne pas se tromper dans la manipulation des ballots de pastel, il y avait un dessin, parfois qui représentait un cœur avec un C, ou une petite tour. Chaque pastelier avait son dessin propre qui était dessiné sur ses ballots. Et cette peinture de Joseph Vernet, qui est au Musée national de la Marine, est une très belle peinture et qui nous parle, nous qui sommes intéressés aujourd'hui au pastel. Je vais après vous parler, puisque nous savons que, enfin nous savons, nous qui venons de lire le livre, parce que malheureusement les gens ne connaissent pas bien l'histoire de leur pastel et l'histoire de leur région, alors qu'elle est passionnante. Nous pouvons nous poser la question de pourquoi est-ce que le pastel qui avait permis des telles fortunes dans nos régions, pourquoi est-ce que ces gains aussi importants se sont arrêtés? Alors, nous savons que nous avons entendu parler de l'indigo, et qui va finir par arriver chez nous, l'indigo ferra tintatoria. Madame Armagnac, vous m'arrêterez si je me trompe, qui n'est pas une petite fleur jaune, mais qui est une petite fleur rose, et qui va prendre la place du pastel parce qu'elle a un pouvoir de teinture 20 fois supérieur à notre pastel local. Est-ce que vous pouvez me parler de cette plante ?
En fait, au début, ils vont vraiment être complémentaires. C'est vrai qu'en 1561, il va y avoir une grave crise parce qu'il n'y avait pas eu le climat qu'il fallait. On était un petit peu en manque. Et puis, il y avait ce pastel qui venait d'Inde, qui venait aussi des Antilles et qui était... ce n'était pas du pastel, c'était de l'indigo qui venait issu d'indigotier, Indigofera tinctoria, comme vous dites, qui arrivait, qui était beaucoup moins cher. Et donc, on avait des cuves de pastel qui étaient enrichies à l'indigo exotique. Et puis, progressivement, c'est vrai que c'est devenu une cuve d'indigo exotique enrichie au pastel. Et puis, ils ont bien été complémentaires. Et puis finalement, il y a eu l'invention de l'indigo synthétique et finalement, ils ont disparu. Mais souvent, je dis vraiment, c'était une belle histoire entre l'indigotier et le pastel d'ici, parce qu'ils étaient complémentaires et que souvent, on n'arrivait pas à faire venir l'indigo de là-bas, il y avait toujours du pastel ici qui était produit en renfort pour que les teinturiers ne se trouvent pas en mal. Et c'est vrai que il va y avoir sous Napoléon Ier le blocus continental, on va plus recevoir de l'indigo qui vient des Antilles et finalement...
Il y a un renouveau du pastel à cette époque.
Oui, Napoléon incite, il y avait même des primes pour que les agriculteurs replantent du pastel. Il y en existait toujours un petit peu, mais qu'on puisse en replanter davantage. Et puis, il avait créé l'école d'Albi pour vraiment motiver. Et c'est là qu'on a mis au point aussi, c'est très important, une nouvelle mode d'extraction du pigment. On ne passait plus par les cocagnes. Les cocagnes et la grana qui étaient quand même assez longs. Donc là, directement...
Lourde.
Voilà, on, à partir d'une macération des feuilles, on arrivait à retirer après le pigment directement en poudre. Donc ça a été
un gros progrès
dans la chimie.
Oui, malheureusement, cette école impériale d'Albi n'a pas duré très longtemps à cause des histoires politiques, puisque Napoléon n'est pas resté au pouvoir. Et alors, moi j'ai noté qu'en 1833, Bayer, le chimiste allemand, avait découvert l'indigo de synthèse, qui alors là va finir de mettre sur le flanc notre belle histoire du pastel, malheureusement. Je voudrais encore vous poser une petite question concernant le pastel, avant de passer au pastel aujourd'hui. On parle souvent du pays de Cocagne. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus pour nos auditeurs qui ne savent pas exactement l'origine de cette expression pays de Cocagne ?
Pays de Cocagne, parce qu'effectivement, avant que l'on mette au point cet autre mode d'extraction du pigment sous Napoléon, on récoltait les feuilles et on faisait des coques Cocagne. C'était le nom du coque Cocagne. Et souvent, on disait, comme les agriculteurs, les paysans, les pasteliers avaient fait beaucoup d'argent, on vivait au pays de Cocagne, c'est un pays de Cocagne, on vivait bien, on gagnait bien sa vie. Donc voilà, pays de Cocagne, c'était... Et la tradition du jeu du mât de Cocagne, c'est quand on mettait... Parce que les Cocagnes, pour les faire sécher, il fallait les mettre... Il y avait des grands séchoirs et quelquefois, on les mettait aussi... En haut d'un mât, il y avait des petites placettes, on les mettait là, surtout pour pas que les bêtes ou autres y montent. Et c'est pour ça que maintenant, après le jeu du mât de Cocagne, où il faut aller trouver une richesse qui est plantée en haut, le tronc a été savonné, c'est difficile de monter le jeu du mât de Cocagne.
Madame Armagnac, comme nous n'allons pas avoir énormément de temps, je vais encore vous poser quelques questions concernant ce pastel que vous avez étudié profondément et avec passion, c'est ce qu'on voit à travers votre livre. Et on va parler du pastel aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, en 2021, le pastel est devenu... a obtenu ses lettres de noblesse pour ne pas être oublié. Il fait donc maintenant partie du patrimoine culturel national français, immatériel français. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle appellation du pastel pour qu'enfin on n'oublie pas l'histoire du pastel ?
Ouais, et je me dis, et on n'en oubliera pas, donc c'est classé maintenant au patrimoine culturel immatériel de France, donc les savoir-faire liés à la teinture au pastel, mais je dois dire que on disait que le pastel avait disparu suite à l'invention de l'indigo synthétique par Bayer, mais on doit absolument, c'est aux alentours des années 90, 1994, qu'on doit le retour du pastel en force dans le sud grâce à plusieurs personnes, et notamment, surtout, c'est la culture qui est vraiment remise par Henri et Denise Lambert. Et oui. C'est un...
À Lectoure.
C'est à Lectoure, voilà, ouais. Le bleu de Lectoure. C'est,
ils ont remis le pastel à l'honneur voilà. Pour le
et
faire.
Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'on saluait les maîtres pasteliers, enfin les marchands pasteliers de Toulouse, qu'il y en a un qui venait de l'Aveyron, l'autre qui venait d'Espagne, qui venait d'ailleurs. Et on voyait quand on a fait cette étude que le renouveau du pastel, Denise et Henri Lambert venaient de Belgique, ils sont venus là. Il y a eu avant eux Gilbert Delahaye qui était aussi un artisan tisserand d'art et qui est venu s'installer à Cordes. Gilbert Delahaye qui venait du Nord et qui a aussi qui a tenté une première reconstitution de teinture avec le pastel.
On trouve dans votre
c'est
livre...
C'est des gens venus d'ailleurs qui ont remis le pastel à l'honneur en Occitanie. C'est quand même curieux.
Ce qui est très curieux à travers votre livre, c'est que en réalité, les gens au XXIe siècle qui s'occupent de pastel sont tombés par hasard sur le pastel et sont tombés amoureux du pastel.
Absolument.
Monsieur Ruffino, qui était journaliste, a ouvert le musée de Magrin sur le pastel. Vous parlez aussi des Lambert, puisque lui, il avait une galerie de peinture en Belgique. Enfin, c'est vraiment incroyable de voir que les gens, par hasard, trouvent sur la route du pastel et tombent amoureux du pastel. Nous allons parler du pastel encore un petit peu aujourd'hui par rapport aux grands couturiers. Les grands couturiers découvrent la magie de ce bleu, puisque le pastel permet de donner 13 teintes différentes. Et il faut savoir que maintenant, toutes les femmes qui nous écoutent, même les hommes, savent que les couleurs ne sont pas garanties grand teint, mais la couleur obtenue avec le pastel est une couleur qui ne varie pas. Donc les grands couturiers, et avec cette époque écologique, font des demandes à certaines personnes qui font encore des teintures végétales, comme Denise Lambert installée à Roumains, ou comme les personnes qui sont installées à Lautrec dans le Tarn. Et donc, il y a un renouveau pour une petite poignée de gens, malheureusement, parce que ça n'est pas possible de teindre tous nos blue jeans au pastel et toutes nos robes bleues au pastel. Mais il y a un renouveau pour les connaisseurs et les gens qui apprécient le beau, la qualité, la douceur, puisqu'il paraît que le bleu obtenu par le pastel est un bleu complètement inimitable. Est-ce que vous avez encore quelque chose à me rajouter par rapport à la cosmétique et par rapport à la santé, puisque le pastel sert aussi pour les cosmétiques et pour la santé, pour les huiles végétales et les progrès que fait la médecine par rapport aux huiles obtenues par le pastel?
Il faut saluer Graines de Pastel, évidemment, qui est installée à Toulouse, Caroline Juin, et qui font... un superbe travail et qui ont établi toute une gamme, qui ont produit toute une gamme complète de produits cosmétiques, vraiment qui valorisent les propriétés médicinales du pastel. Donc ça, c'est vraiment à signaler parce que c'est aussi les produits locaux, vraiment avec du pastel cultivé localement et des méthodes écologiques. Saluons Graines de Pastel à Toulouse.
Oui, ça c'est une chance pour les Toulousains, un produit local fait avec vraiment notre histoire. C'est du local historique. Voilà, donc il faut essayer ces produits. Je voudrais dire aussi à nos amis auditeurs que dans ce livre, qui est vraiment un très agréable, parce que c'est un livre d'histoire et un livre d'art, il y a aussi, à la page 73, la recette donnée par Michel Garcia pour teindre vos habits vous-même avec de la teinture de pastel, avec le pastel. Alors, je voudrais vous demander, Chantal Armagnac, où pouvons-nous trouver de la poudre de pastel? Parce que c'est quand même un produit, il faut une tonne pour faire un kilo, il faut une tonne de feuilles pour faire un kilo de poudre de pastel. Où pouvons-nous, nous simples Toulousains ou Albigeois, trouver de la poudre de pastel?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu la période où la CAPA à Saverdun en Ariège en produisaient beaucoup, que maintenant ils ont cessé, que eh ben, souvent il faut aller s'approvisionner où on peut. Donc au Château des Plantes près de Castres, vous pouvez en trouver, fait par Bruno Berthoumieux. Vous pouvez en trouver auprès de Patrick Brenac à Greening à Bédarieux. Vous pianotez sur internet Greening Bédarieux et vous pouvez vous approvisionner là. Et sinon, encore plus loin, en Italie, il y a aussi des producteurs, une coopérative, La Campana.
Alors, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez appeler la radio, nous vous communiquerons à nouveau ces adresses, parce que ça me paraît important qu'après l'émission, vous ayez envie, vous puissiez trouver les recettes de pastel. Je voudrais conclure peut-être cette émission en reparlant encore à nouveau de cette pièce de théâtre, Un ruban bleu pastel, ce spectacle qui met à l'honneur notre patrimoine occitan, le pastel, qui a été joué déjà à Albi, mais qui n'a pas encore été joué à Toulouse. Or, Toulouse est aussi concernée qu'Albi par le pastel. Notre ville est si belle grâce à tous nos pasteliers. Je voudrais aussi vous dire, chers amis auditeurs, d'ouvrir vos yeux maintenant quand vous vous promenez dans notre région, parce qu'il y a énormément de marques de pasteliers à Toulouse, à Albi, dans les campagnes, pour faire sécher aussi les boules de cocagne. Il y avait des fermes pastelières. Ouvrez vos yeux, découvrez et faites connaître l'histoire de notre belle région avec son pastel. C'est une histoire passionnante qui est encore à creuser et à découvrir tous les jours et à faire connaître autour de nous. Chers amis auditeurs, à bientôt.